Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Je vous propose aujourd'hui une émission sur l'art de s'émerveiller. S'émerveiller de notre quotidien, de ce qui se trouve à portée de main. Ici et maintenant, nous verrons ce qu'est l'émerveillement, comment continuer à s'émerveiller dans un monde brutal qui s'annonce de plus en plus anxiogène, comment cultiver son aptitude à l'émerveillement, comment retrouver le regard neuf de l'enfant qui permet de vivre chaque instant comme s'il était le premier. Notre invitée, l'écrivaine Belinda Cannon, et mes deux complices aujourd'hui, Guillemette Audicino et Éric Libio, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Que c'est beau. Non, non, ne bouge pas. Hein? Laisse-moi regarder. Laisse-moi admirer. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est à pleurer tellement t'es belle. Tu vois, j'ose même pas toucher.
Ce cher Jean-Pierre Mariel qui s'émerveille à sa manière dans les galettes de Pont-Aven de Joël Seria en 1975. Avec nous pour évoquer l'art de s'émerveiller au quotidien dans un monde brutal, anxiogène, Belinda Cannon, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes romancière et essayiste, maître de conférences en littérature comparée à l'université Cambasse Normandie, et vous publiez chez Stock S'émerveiller. Alors, le Robert me dit que s'émerveiller, c'est éprouver un étonnement agréable, et le Larousse affirme que c'est éprouver un sentiment d'admiration. Et vous, Belinda Cannon, quelle est votre définition de l'émerveillement ?
Eh bien, c'est un mélange de tout ça, puisqu'en effet, dans le mot, enfin, à l'origine, l'émerveillement, c'est d'abord l'étonnement. Mais c'est en effet un étonnement qui produit de la joie et c'est un étonnement devant quelque chose qui nous paraît suffisamment beau pour qu'on puisse aussi évoquer l'admiration. Donc c'est ce mélange de toutes ces petites émotions avec cette tendance à la joie, oui, ce mouvement vers la joie.
Alors vous avez commencé à réfléchir à ce livre au moment des attentats de 2015. Vous auriez pu remettre votre plume dans votre poche. Au contraire, cet ouvrage était plus que jamais nécessaire pour vous.
Oui, je pense que j'écris parfois aussi sur le monde comme il va mal, et il va souvent mal, et en ce moment même il est très très inquiétant. Et il m'a semblé qu'écrire sur l'émerveillement, outre que c'était un sujet qui était en moi depuis longtemps, j'ai écrit sur des choses avoisinantes, mais il me semblait qu'il fallait résister à l'enténèbrement du monde de cette façon-là, en rappelant que s'émerveiller c'est aussi un acte intérieur très important.
Alors beaucoup d'entre nous peuvent avoir du mal à s'émerveiller dans ce monde qui apparaît comme brutal, anxiogène, cruel. Ça peut paraître inconséquent de s'émerveiller alors que nous dansons au bord du gouffre.
Oui, mais on n'est pas obligé de tomber dans le gouffre, on peut justement rester au bord et on peut justement regarder aussi les choses simples. L'émerveillement qui m'a intéressée dans ce livre, c'est l'émerveillement devant le monde modeste, devant les objets simples, ce qu'on voit tous les jours, un oiseau qui passe, une rue, une lumière, quelqu'un qu'on aime. Toutes ces petites choses qu'on pourrait ne pas voir et qui sont là pourtant.
Par exemple, un jour d'automne, vous contemplez le chêne dans votre jardin, les deux merles qui cherchent de la nourriture, et vous ressentez un émerveillement face à la plénitude du quotidien.
Oui, voilà, ce sont des objets simples par définition, des oiseaux, un arbre, comme il y en a des milliers. Et pourtant, si je les regarde vraiment, mais il s'agit d'être vraiment là. L'émerveillement, c'est ici et maintenant. Alors souvent, on est projeté soit dans des pensées un peu mélancoliques, soit vers l'avant, parce qu'on veut réaliser des choses, on veut avancer, progresser, etc. Et on oublie d'être présent au moment T. Je crois que c'est ça surtout qui nous empêche de nous émerveiller souvent.
Et l'émerveillement, ça peut avoir un côté bébête, nunuche, un côté lourd à vide de la Vierge pour les plus cyniques d'entre nous.
Oui, parce que si c'était un sentiment qu'on avait en permanence d'ailleurs, ce serait un vrai problème, on serait le ravi de la crèche. Mais je crois que c'est un moment fugitif qui passe et qu'il faut savoir vivre au moment où il se présente.
Alors j'ai l'impression que l'émerveillement, c'est avant tout une question de regard.
Oui, moi je l'attache beaucoup au regard, quoique j'ai parlé de la musique, et que pour ma part par exemple, j'ai beaucoup d'émerveillement lié à la musique.
Oui, mais la beauté secrète du chêne dans votre jardin, cette beauté elle apparaît sous votre regard assidu.
C'est ça, il s'agit d'ouvrir grand les yeux et d'être réceptif. C'est un état de concentration, de vigilance à ce qui est devant nous. Alors c'est vrai que se servir de l'image du regard, c'est le mot le plus commode, disons, pour pouvoir parler de l'émerveillement et de l'état de réceptivité. qui nous est demandé pour ça.
Alors j'évoquais tout à l'heure le regard de l'enfant, ce regard neuf de l'enfant qui permet de vivre chaque instant comme s'il était le premier. Chez l'enfant, aucun aspect de la vie n'est émoussé.
Oui, parce que vous savez, ce qui contrarie l'émerveillement, souvent, c'est la familiarité. Parce qu'on a trop vu les choses, on les connaît trop bien, donc on ne les voit pas. Et c'est vrai que pour les enfants, on n'a qu'à les regarder. Les enfants arrivent à tout regarder, à tout voir en nouveauté, comme dit Baudelaire. Et il faut retrouver ce regard qui défamiliarise le monde.
Éric Libieux, je n'imaginais pas que le rire d'un bébé pouvait vous émerveiller.
Oui, un bébé ou un enfant, hein, je ne fais pas de discrimination. Et parfois, je suis même émerveillé d'être encore émerveillé par... par ces rires-là, parce que l'émerveillement renvoie aussi à l'histoire personnelle, c'est-à-dire à des souvenirs, à une façon, comme vous dites, de regarder le monde, de s'intéresser aux choses. Je suis plus émerveillé par un rire d'enfant que par les résultats du CAC 40. C'est vrai qu'à un moment donné, ces souvenirs-là remontent à la surface et on s'émerveille de s'émerveiller. J'aime bien cette espèce de mise en abîme comme ça de l'émerveillement aussi.
Guy Métodicino, vous aussi, c'est le rire d'un enfant qui ne cessera jamais de vous émerveiller.
Mais c'est vrai, j'étais très jalouse quand Eric nous a tous envoyé par mail le rire d'un enfant. J'ai dit mince, il m'a piqué mon émerveillement. Mais en dessous, j'ai mis aussi beaucoup de choses en fait qui se rapprochent de la nature. Je voudrais juste vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce week-end rapidement. J'ai vu pour la première fois un rouge-gorge, mais en vrai. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, en fait, je pense que je n'avais vu des rouges-gorges que par dans des livres d'enfants, souvent, ou des livres sur la nature. Et j'ai appelé ma famille, et il y avait beaucoup d'adolescents. Je me suis dit, mon Dieu, ils vont me traiter de débile, de leur montrer un rouge-gorge. Il y a eu un silence d'émerveillement. Tous ces espèces de boutonneux, là, ils sont restés quoi devant un rouge-gorge.
Belinda Cannon, certains pourraient ricaner que l'on s'émerveille du rire d'un bébé, du rire d'un enfant ou bien de la vision d'un rouge-gorge.
Moi, d'ailleurs, je m'émerveille plutôt du rire des femmes. de ces rires très cristallins, très hauts, très beaux. Non, je pense qu'en réalité, je croyais ça aussi. Je pouvais le redouter que les gens disent « Mais qu'est-ce qu'elle vient nous parler d'émerveillement, ça là ?» Et finalement, pas du tout. Je m'aperçois que les gens me disent « Mais vous savez, moi, je m'émerveille souvent. » Et non, je crois qu'en fait, on s'émerveille, mais c'est un sentiment, une émotion plutôt dont on ne parle jamais. En réalité, on s'émerveille assez souvent, et tout le monde, enfin très souvent.
Bonjour Eugénie.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Saint-Maur-des-Fossés. Alors, qu'est-ce qui vous émerveille dans la vie? Ou qu'est-ce qui vous a émerveillé récemment?
Ce qui est amusant, parce que j'écoutais là, les premiers témoignages, c'est que j'ai l'impression que ça s'est passé hier, mais que c'est plutôt une suite d'émerveillements. C'est-à-dire que j'avais un rendez-vous de l'autre côté du parc Monceau, je choisis de le traverser parce que j'aime bien quand même voir les arbres et tout ça. Je lis, en rentrant à l'entrée, l'historique du parc Monceau, et je me dis, c'est quand même étonnant, je savais pas qu'avant, il y avait des collections, après, c'est devenu transformé par Napoléon III et tout, donc, comme une sorte d'ouverture, et puis après, à gauche, je tombe sur un énorme chêne, mais magnifique, parce qu'il avait plu, donc il y avait les couleurs du tronc qui étaient différentes, d'une couleur presque taupe d'un côté, et puis ses branches vers le ciel et tout. Et donc, je regarde ce chêne. Donc, clac, hop, l'émerveillement se déclenche. Et ensuite, parce que j'ai l'impression que c'est comme un peu une cascade. Et puis ensuite, je croise trois petits, là, trois enfants. Un ver de terre écrabouillé, mais pas complètement sur l'allée. J'ai un petit papier dans ma poche. Hop, on le met dans l'herbe. Et voilà, quoi. Et je me dis, c'est ça, enfin, c'est les surprises. Il y a aussi ça, en fait. Il y a à la fois la beauté de la nature, là. Mais c'est ce que disait au début de l'interview, la présence. La présence à cet instant présent qui permet comme ça des choses.
Belinda
Cannon. Agréable et vivante.
Mais oui, c'est exactement ce que décrit cette dame. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, il se passe, on voit deux ou trois choses, on a ce petit sentiment d'émerveillement, et puis voilà, et puis c'est fini, on passe à autre chose, on reprend le rythme de la vie, mais peut-être qu'on garde des espèces de yeux grands ouverts pour que ça puisse se reproduire à un autre moment.
Merci beaucoup Eugénie de nous avoir appelé de Saint-Maur-des-Fossés. Il est déjà l'heure de retrouver la vie des films de Guillemet Odissino.
Alors d'abord, je vais vous parler du film dont je ne vais pas vous parler.
Très bien, ça commence bien.
Oui, j'ai beaucoup hésité à lire parce qu'il y a Pandora d'Albert Lewin qui ressort en salle bientôt. Et il faut quand même que... d'abord, je remercie Alain Souchon d'avoir fait une chanson sur la beauté d'Ava Gardner. La beauté d'Ava Gardner...
Qui vous émerveille.
Qui m'émerveille, mais totalement, définitivement. La beauté des femmes m'émerveille. Moi, c'est plus leur beauté que leur rire. Et Ava Gardner, c'est grâce à sa beauté et l'émerveillement que j'ai eu devant sa beauté, je devais avoir 7 ans, que je suis tombée amoureuse du cinéma. J'ai vu Pandora, je n'ai strictement rien compris. J'ai juste vu une femme sublime dans un film beau et j'ai dit d'accord, donc ça, cette chose sur l'écran, ce sera ma vie. Enfin, j'essaierai de rentrer là-dedans. Et bien plus tard, j'ai découvert Madame 2 de Max Ophuls. Madame 2 en plus m'a porté chance, puisque c'est grâce à Madame 2 que je suis rentrée à Télérama. Un jour, on m'a demandé quel était mon film préféré.
Pierre Murat, je peux.
Pierre Murat, tout à fait.
Qu'on retrouve dans Le Masque et la Plume. Notamment.
Comme entretien d'embauche, c'était assez sublime. Il m'a juste demandé quel était mon film préféré. J'ai répondu Madame 2, coup de bol. Et j'ai été embauchée. Et Madame 2, c'est un sommet d'élégance.
Vous savez, ma petite Louise, je n'ai pas un goût particulier pour le personnage que vous avez fait de moi. Je suis efforcé d'y ressembler pour ne pas vous déplaire. Je ne l'aurais pas choisi.
Il est encore temps. N'échappez pas comme vous le faites dans la maladie, le silence. Je ne fais pas de reproches. Je vous dis, je suis votre ami, laissez-moi vous aider.
Personne ne peut plus rien pour moi.
Personne ne pourra plus rien pour Daniel Darieux. Alors Louise, c'est une coquette, mais une coquette merveilleuse. Elle vend ses boucles d'oreilles en forme de cœur parce qu'elle a des dettes. Et les hommes ne l'intéressent pas vraiment. Elle est mariée avec Charles Boyer, dont on entend la voix magnifique. C'est un couple bourgeois qui n'est que superficiellement superficiel. Mais un jour, Louise, elle rencontre quelque chose qu'elle ne connaissait pas. L'amour. Mais l'amour dans sa gravité, sa profondeur, sa tragédie aussi. Alors Madame 2, non seulement c'est d'une élégance rare dans le fond, mais c'est d'une élégance rare dans la forme. Vous savez, justement, dans votre livre, Belinda, vous parlez de l'humilité. Mm-hmm. Comment un metteur en scène fait les plus beaux mouvements de cinéma, les plus beaux mouvements de caméra, avec une sorte d'humilité qui fait que vous avez besoin de revoir plusieurs fois un film pour vous dire « Oh, mon Dieu, mais quelle merveille, quel émerveillement !» Un émerveillement qui vous étreint comme jamais. Donc Madame 2, ça raconte une histoire d'amour tragique. À l'intérieur du film aussi, puisque ce n'est pas un film politique, c'est juste un film absolument merveilleux sur la gravité des sentiments. Mais à l'intérieur du film, il y a un tout petit moment, une toute petite scène, qui aussi dit la beauté de l'Europe. C'est beau l'Europe. Il y a un discours d'un vieux monsieur qui dit que l'Europe est une chose précieuse. Oui, je vois Belinda, elle me fait un signe comme ça avec le doigt. Il y a aussi l'une des plus belles scènes de danse, de valse,
bien sûr,
de toute l'histoire du cinéma. Ce moment, effectivement, cet instant T où le temps s'arrête parce qu'on valse avec l'homme qu'on aime. Mais donc, au-delà de la valse, il y a donc une petite perle politique à l'intérieur de ce film. Et franchement, l'élégance, valeur vraiment en perdition aujourd'hui. Alors, dans un monde qui élit des hommes, mais je mets des gros guillemets à hommes, en fait, qui n'élit pas des Charles Boyer, mais qui élit des Trump, qui élit des c'est pas possible, et qui risque, en France, d'élire des grandes menteuses, je pense qu'il faudrait demander de mettre Madame 2 en perfusion, une bonne perfusion d'élégance dans ce monde de brut.
L'art de s'émerveiller, c'est notre thème aujourd'hui, en compagnie de l'écrivaine Belinda Cannon.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Peggy Lee interprétée Fever.
Oh, oh, que c'est beau!
Grand bien vous fasse.
C'est quand même beau, la mer.
C'est vrai que c'est beau. En même temps, toujours pareil. C'est de l'eau qui bouge.
Sur France Inter.
On se demande comment s'émerveiller dans un monde inquiet avec l'écrivaine Belinda Cannon et avec la complicité d'Éric Libiaud de L'Express et de Guillemette Audicino. Bonjour Karine, d'où appelez-vous?
De ma voiture.
Alors, qu'est-ce qui vous émerveille ou qu'est-ce qui vous a émerveillé récemment, Karine?
Eh ben, pas plus tard qu'hier soir, quand je suis rentrée du travail, moi j'habite en pleine nature, je descendais mon chemin tranquillement et là j'ai vu sous mes yeux un blaireau et c'était magique.
Alors ça ressemble à quoi un blaireau? C'est un peu bête mais j'en ai jamais vu.
Et ben en fait, moi je pensais au début que c'était un de mes chats qui courait, et en fait pas du tout, c'est bien plus gros qu'un chat, ça marche tout bizarroïde, et du coup je lui ai couru après pour voir ce que c'était, et là j'ai vu un gros truc avec une, enfin c'était la nuit, hein, mais fourrure un peu marron brunâtre, les petits yeux, il est parti, après il est parti dans le bois plus haut, et c'est là où quand il est tourné, j'ai vu son visage, et j'ai dit, oh, un blaireau, mais c'est superbe, et voilà.
Alors vous réalisez, Karine, je crois savoir que vous réalisez des films d'animation, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, vous aimez voir l'émerveillement dans les yeux des enfants, ceux
dans
qui
les yeux des enfants, ouais. Dans les miens aussi, ouais. Parce qu'en fait, quand ils bougent leur personnage, c'est assez long, vous savez. On bouge une image, on en fait une autre, on bouge le personnage, on en fait une autre, et à la fin, quand toutes les images sont synthétisées, là, les enfants voient leur personnage bouger, leur cul, bouger pas, ou n'importe. Et là, c'est l'émerveillement dans leurs yeux parce qu'ils ont la magie de voir bouger la chose et c'est superbe.
En tout cas, votre...
Ça le fait chez moi aussi. Hein,
votre émerveillement est communicatif, Karine.
Ah oui, vous êtes merveilleuse, madame.
Ah bah, je sais pas.
Belle journée.
Je m'exprime parfois un peu mal, mais c'est vrai que c'est magique de voir l'animation, enfin, le film se faire, quoi. C'est magique.
Belinda Cannon, voulez-vous parler?
Oui, parce que bien sûr, je comprends très bien son émerveillement devant un blaireau. Moi-même, j'évoquais souvent dans mon livre ces petits émerveillements qu'on a quand on voit un animal sauvage. Oui. Pourquoi on a ce sentiment d'une grâce qui nous est accordée soudain? On peut voir quelque chose qui d'habitude nous échappe, des chevreuils, des oiseaux, que sais-je. Et c'est vrai, un animal sauvage nous donne le sentiment de la grâce, mais je crois que c'est aussi parce que on n'est pas programmé pour voir ça. C'est-à-dire, tout à coup, c'est comme une petite porte qui s'ouvre dans le réel et on voit quelque chose qui aurait dû nous échapper.
Éric Libiaud ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de l'inconnu. On parlait tout à l'heure du rire de l'enfant. Il émerveille aussi parce qu'on ne sait pas à quoi il sera. Il n'est pas du tout rationnel. On ne sait pas pourquoi il rit finalement. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et quand on voit des animaux sauvages, pareil, c'est aussi un inconnu, comme vous le disiez, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'arrive pas à rationaliser un événement, un objet, et tout d'un coup, c'est aussi ça qui émerveille, je pense. C'est une espèce de saut dans l'inconnu un peu.
Je crois que c'est le monde sans nous. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que ce qui nous émerveille, c'est aussi ce qui n'est pas soi. Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. Tout ce qui est le non-moi, qui est en face de nous et qui n'est pas nous. Ça, je crois que c'est une des raisons de l'émerveillement aussi.
Guillemette Odissino.
Oui, et qui aussi existe sans nous et n'a pas été créé par nous.
Oui, c'est ça.
Parce que cet animal sauvage, en fait, ou même, moi, je suis obsédée par les fleurs. Regarder une fleur, se dire, mais je serais incapable de fabriquer la moitié du début de la beauté de ce truc, quoi. Les couleurs, là. Enfin, c'est absolument hallucinant. Une fleur, c'est un mystère, mais sans cesse recréé.
Oui.
Merci beaucoup, Karine, de nous avoir appelé. Continuez à vous émerveiller.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Et moi qui vous parle, j'ai beaucoup voyagé. Le monde, j'en ai fait le tour. J'ai vu les chutes du Niagara, les cloches de Corneville, la tour de Londres, la place d'Italie à Paris, le canal de Panama et la fête à Neuilly. Merveille du monde, quatrième leçon. Allons, allons les enfants.
Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit. Il y a la mer qui est profonde, il y a la terre qui est toute ronde.
Un extrait du film d'animation Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud en 1952. Belinda Cannon, il n'est pas toujours facile de se rendre disponible aux événements qui émerveillent.
Non, parce que la plupart du temps, dans le meilleur des cas, on est pris par le désir, et le désir, c'est le désir de faire, d'agir. Donc on est toujours légèrement projeté en avant de soi-même, et dans cette anticipation des choses à faire, et du coup, on n'a pas les yeux grands ouverts.
Et s'émerveiller suppose donc d'oublier pour un temps le passé et le futur.
C'est ça, c'est vraiment le présent pur, l'émerveillement.
Et votre père ne cessait d'attirer votre attention sur la beauté de l'univers en vous disant « regarde, regarde ». C'est une magnifique injonction.
Oui, je crois que d'abord l'émerveillement, ça s'apprend, ça se cultive, disons. Et les parents apprennent aux enfants à s'émerveiller en leur disant « regarde ». Si on ne vous l'a jamais appris, ça doit être plus difficile. Et ce qui me frappe dans cette idée du « regarde, regarde », c'est que je crois que personne ne peut dire qu'il s'est trouvé en compagnie de quelqu'un qu'il a été émerveillé sans avoir envie de lui dire « regarde ». Curieusement, il y a ce mouvement, mais c'est incroyable, ce mouvement humain profond, quand on s'émerveille, on veut que l'autre s'émerveille avec nous. On lui dit « regarde, regarde ».
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, je pense, le plus beau partage. Il y a quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, on est extrêmement déçus, il faut être honnête. Quand on dit « regarde, regarde, c'est merveilleux » et que l'autre ne regarde pas. Ah, mais ah, ça, oui. C'est une blessure. Ah, oui. C'est-à-dire que pendant une demi-seconde, on n'aime plus cette personne que d'habitude on adore parce qu'il ne s'est pas émerveillé de la même manière.
Mais d'ailleurs, Belinda Cannon, dans votre ouvrage, vous racontez une promenade avec une amie, vous émerveillez de la nature environnante, etc. Et votre amie regarde droit devant elle, n'a pas l'air du tout intéressée par votre émerveillement.
Oui, c'est pas une fois, ça arrive tout le temps. On passe quelque part où on sait qu'il y a matière à s'émerveiller, en tout cas il faut regarder, et on est avec quelqu'un qui vous parle, ou qui regarde son guidon si vous êtes à vélo, ou ses pieds si vous marchez, et qui ne regarde rien. Et ça, pour moi, c'est toujours un sujet d'étonnement, que les gens n'ouvrent pas les yeux vers l'extérieur.
Alors, il est possible de retrouver l'émerveillement de l'enfant au prix d'une petite discipline? Pour s'émerveiller, il est bon de renouer, par exemple, avec une certaine lenteur.
Oui, je crois. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite à moi-même. Je vais toujours trop vite, je fais trop de choses. Et je crois que c'est mon apprentissage, là, des temps à venir. Il faut que j'apprenne la lenteur. S'il n'y a pas de lenteur, il ne peut pas y avoir d'émerveillement. Parce qu'on va trop vite.
Éric Libiot, pourquoi arriver en haut d'une montagne provoque chez vous, non pas une montée de lait, mais une montée d'émerveillement?
Mais c'est comme regarder un océan, c'est une espèce de... C'est la grandeur, c'est la modestie de ce que je suis tout petit par rapport à l'émerveillement de ce paysage grandiose. C'est comme disait Guillemette, quelque chose qu'on a effectivement pas créé, que personne n'a créé d'ailleurs. Et ce rapport de la majesté et de l'humilité, vous en parlez aussi beaucoup de l'humilité, moi me fascine et m'émerveille tout le temps.
Belinda Cannon, pourquoi la nature suscite autant l'émerveillement? Pourquoi par exemple chez vous la montagne à Annecy ne cesse de vous émerveiller?
Je crois que c'est... parce que c'est justement le non-moi. On est habitué, on est des êtres de la fabrication, de l'action, on intervient sur le monde, on fait des tas de choses, et tout à coup, il y a du non-moi en face de nous, et qui nous est offert à contempler, à regarder, à sentir, à écouter. Et j'y crois, moi, à cette histoire de non-moi, c'est très important. On passe notre temps coincé en nous-mêmes, et tout à coup, la montagne, c'est un exemple extraordinaire pour ça. Moi aussi, la montagne, c'est un de mes sujets d'émerveillement, qui n'est pas modeste, là, pour le coup. La montagne, c'est vraiment grandiose. Mais tout à coup, voilà, ça nous est offert, ça est offert à notre regard, à notre contemplation. C'est merveilleux, ça.
Bonjour Françoise, vous appelez d'Angers.
Oui, tout à fait.
Comment allez-vous?
Oui, c'est un temps magnifique d'ailleurs, super aujourd'hui. Déjà, ça m'émerveille.
Alors, qu'est-ce qui vous émerveille en règle générale dans la vie?
Plein de choses.
Vous êtes infirmière à domicile, je le précise.
Oui, je suis infirmière à domicile, donc je me balade dans une cité qui est parfois un petit peu difficile, mais il y a aussi des gens merveilleux. Puis il y a des petites choses qui viennent me donner du bonheur. Je sors chez quelqu'un, c'est un peu triste. Et puis sur le bord du trottoir, il y a un petit coquelicot, minuscule, qui a poussé tout seul. On se demande comment il est venu là. Et puis plus loin, il y a un petit oiseau qui est en train de se baigner. Moi, je m'arrête, je regarde, c'est beau. Ou des troupeaux de chiens aussi. Il y avait des chiens qui se promenaient tout seuls, qui traversaient la rue sans problème. Bah, c'est merveilleux, ils sont super ces chiens.
À nouveau, voilà. La question du regard, Belinda Cannon, dont parle Françoise.
Voyez. Et puis, la question de la nature, quand même. On n'est pas gnangnan quand on regarde la nature. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui est autour de nous. Ce qui me frappe dans ce que disait Madame au début aussi, c'est la lumière. On ne parle pas assez de la lumière. On est des êtres complètement photosensibles. On se réveille selon la qualité de lumière. Notre humeur va être immédiatement transformée. C'est frappant, ça aussi. On pourrait se dire, après tout, qu'il fasse gris ou qu'il fasse beau, pourquoi? Eh bien non, il y a des qualités de lumière qui modifie complètement notre perception du monde.
D'ailleurs, vous photographiez votre chêne dans votre jardin très souvent, et c'est évidemment en fonction de la lumière.
Bien sûr, la seule chose qu'il y a à photographier dans ce chêne, qui est en face, dans un champ en face de ma maison, c'est les variations de la lumière autour de lui. Et ça change tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour même, puisque c'est en Normandie. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est toutes ces variations du ciel, des nuages, des éclairages.
Merci beaucoup Françoise de nous avoir appelé d'Angers. Alors dans son ouvrage « Oser l'émerveillement », Lélie Anvar affirme que nous vivons dans une époque désenchantée, et je la cite, « plus rien ne nous étonne, et peut-être pire, rien ne nous émeut vraiment, la seule vraie émotion que nous ressentions encore, c'est la peur, peur de l'avenir, de la violence, des catastrophes naturelles, et plus que tout, peur des autres ». Nous avançons dans, alors moi je précise que nous avançons dans un monde qui avance vers les ténèbres. Comment s'émerveiller? C'est vraiment une question centrale.
D'abord, même si je suis bien d'accord, le 21e siècle, c'est un siècle extraordinairement inquiétant. Il vient de commencer là, et c'est vrai que tout ce qui arrive nous provoque en nous une inquiétude extraordinaire, et en moi aussi bien. Donc ça, c'est vrai. Mais oser s'émerveiller, non, je crois que ce qui me frappe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, depuis que je parle de ce livre, je le présente, etc., c'est le nombre de gens qui viennent me dire « Ah mais merci, vous en parlez, mais c'est vrai, moi je m'émerveille souvent ». Donc je crois que c'est faux. Les gens s'émerveillent, simplement on n'en parle pas parce qu'on a l'air un peu bené quand on dit « Ah, regardez comme c'est beau ». Enfin, on peut le dire à son voisin, sa voisine, c'est un peu difficile de proclamer qu'on est des émerveillés.
Et puis ça peut apparaître comme un furieux manque de lucidité sur le réel, cet émerveillement.
Et voilà, le réel est complexe et nos sentiments à l'égard du réel sont complexes. Donc bien sûr, on est inquiet, bien sûr, on souffre souvent. Ce qu'on a à voir nous met mal à l'aise. Mais on peut aussi s'émerveiller, on peut avoir des sentiments variés quand même.
Et puis la capacité d'émerveillement traduit un désir de vivre, même face aux événements tragiques. Je pense évidemment aux attentats de 2015. Et je pense à la dessinatrice Catherine Meurice, qui dans sa BD a voulu retrouver l'émerveillement après les événements sombres qu'elle a vécu après les attentats de Charlie Hebdo.
Mais je crois que les gens qui commettent des attentats, d'ailleurs, sont assez peu sensibles à l'émerveillement. C'est pas leur projet. Et moi, en ce sens, je dis que c'est un acte de résistance. S'émerveiller, c'est être capable de dire ce monde-ci tel qu'il est, notre précarité, notre passage, bref, tout ceci peut nous émerveiller. Ben ça, c'est une valeur philosophique de pouvoir dire ça.
Et je vous conseille d'ailleurs vraiment le livre La délicatesse de Catherine Meurice, l'une des meilleures BD l'an dernier. Vous approuvez, Eric
Thibault ? Oui, c'est vrai que c'était une façon pour elle de... L'émerveillement comme catharsis, et puis finalement elle retrouve par le plaisir du trait, assez simple là encore, sur la simplicité, prendre un crayon et dessiner, se dessiner elle-même, et elle retrouve une forme de sérénité total.
L'art de s'émerveiller, c'est notre thème aujourd'hui, en compagnie de l'écrivaine Belinda Cannon.
très fort que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi j'emmène pas large. Chez toi sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, de clair-obscur caravage. Dans mes yeux c'est l'automatique arrosage. Filigrane avec la face de Reagan. Et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille. C'est pas gay, tu te fais mal. Moi, con que t'as pas d'âme. Mais moi, je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout.
Marie-Flore, interprétée QCC.
Oh, comme il est bon. On dirait un Courbet, dis donc.
Grand bien vous fasse.
La plus belle chose au monde, un cul. Un cul de bonne femme.
Ali Rébéi.
Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune.
Sur France Inter.
L'art de s'émerveiller, c'est notre thème aujourd'hui, en compagnie de l'écrivaine Belinda Cannon.
Votre vie est terne et répétitive. Émerveillez-vous à tout instant en écoutant le nouveau disque des discours d'Emmanuel Macron, illustré par les plus grandes musiques de films.
Alors c'était un rêve fou il y a 6 mois. Mais ce rêve fou, vous êtes en train de le réaliser. Vous en êtes la preuve.
L'arnaque, le professionnel, danse avec les loups, le parrain, itinéraire d'un enfant gâté. Les plus belles musiques de films accompagnent les discours d'Emmanuel Macron pour un grand moment d'émerveillement.
Nous avons déjà pris les risques. Le risque de faire, le risque de tenter ce que tout le monde nous disait comme impossible.
Appuyez sur la touche En Marche de votre lecteur de CD et entrez dans un océan de béatitude.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Les discours d'Emmanuel Macron illustrés par les plus belles musiques de films, une collection aïe aïe aïe.
Une fausse pub signée François Audouin avec la voix d'Éric Oswald et la voix d'Emmanuel Macron. Comment s'émerveiller dans un monde inquiet avec l'écrivaine Belinda Cannon et avec la complicité d'Éric Libiot de L'Express et de Guillemette Odissino.
On vient de se poser ici. Moi, j'habite juste à côté et j'étais assez émerveillé du paysage. Et...
Alors, je réfléchis hein, parce que c'est pas simple.
Alors, quand je suis émerveillé, c'est le moment où on est...
Émerveillé.
Où je vois une beauté de la nature.
Oui.
Et je me sens heureux.
Je me sentais un peu... J'avais l'impression d'être en vacances à Paris, alors que j'habite là, en fait.
Moi, ça m'arrive très souvent d'être émerveillé, mais plutôt par tout ce qui est paysage.
Par le paysage, par la nature. C'est tout.
Ou alors les grandes villes.
Parce que je trouve que maintenant, tout est tellement moche partout.
J'adore New York. Je suis un grand fan de New York, par exemple, parce que l'architecture, la structure, tout ce dans quoi le regard peut se perdre un petit peu.
Aujourd'hui, tout devient banal, j'ai l'impression, malheureusement. Et du coup, non, émerveillé, je suis pas sûre.
Hier, j'ai été émerveillé par la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone.
Tous les jours. Par envie, par devoir et par bonheur.
Ça faisait longtemps qu'on attendait cette victoire contre le Barcelone.
Ah, un sentiment de plénitude, de sérénité.
Propos recueillis cette semaine dans les rues de Paris. Belinda Cannon, la nature et l'architecture, ça revient pas mal. Hein.
Oui, beaucoup. Hein. Ça, c'est très frappant comme les gens, malgré tout, restent émerveillés par la nature. Mais c'est vrai, l'architecture, on n'en parle pas. L'architecture, alors là, pour le coup, c'est de l'humain. Hein. C'est l'homme qui fabrique la ville. Et c'est vrai qu'on peut être émerveillé par New York. Je parle de Prague dans mon livre parce qu'à ce moment-là, j'y allais. Voilà, il y a des architectures qui nous émerveillent. Même le Mont-Saint-Michel, ça nous émerveille. Ça, on est quand même, on n'est pas exactement dans le non-moi, là. On est dans l'humain, dans la fabrication d'un objet par l'humain, de la même façon qu'on peut être émerveillé par l'œuvre d'art ou par la musique qui est de nature humaine. Voilà. Donc, il y a plusieurs sources d'émerveillement et il y a un émerveillement qui vient de ce que l'homme est capable de faire.
À propos d'œuvres d'art, Éric Libiot, ce sont les tableaux de Turner qui vous émerveillent.
Oui, parce que j'essaie toujours d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les tableaux. Moi, je rêve de voir un tableau de Turner dans un paysage de brouillard. Moi-même, dans le brouillard, quand je vois Turner, parce qu'on devine et chacun y voit ce qu'il veut, et je trouve qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est la naissance, c'est le précurseur de l'impressionnisme. Turner, il a tout inventé de l'inconscient, de ce qu'on projette dans un tableau, de cette espèce de jeu de miroir qu'on a avec une œuvre, et en l'occurrence un tableau. Ça m'émerveille et ça m'émeut à chaque fois.
Et vous, Guillemette Odissino, ce sont les clairs obscurs de Georges de la Tour qui vous émerveillent.
Ah oui. Mais là, je suis dans une admiration absolument, mais je suis pantoise d'admiration. Comment, à l'intérieur d'une toile, soudainement, cette lumière jaillit, irradie sur les visages. Enfin, je trouve ça mais fascinant à chaque fois. Je voudrais voyager dans le temps pour lui demander, mais comment il fait? Avec une simple bougie, il rend le visage d'une femme inoubliable.
Et vous, Belinda Cannon, les œuvres d'art qui ne cessent de vous émerveiller, il y en a évidemment des centaines et des milliers, mais...
Il y en a tant. Mais ce qui me frappe, d'après ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est l'aller-retour entre la nature et l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'après Turner, on ne voit plus le brouillard de la même façon, comme après les impressionnistes, on ne voit plus la nature de la même façon. On s'aperçoit, par exemple, que les arbres ne sont pas toujours verts, qu'ils sont parfois violets, etc. Il y a un aller-retour entre la nature et l'art, et l'art nous apprend à voir la nature aussi.
Et moi, je ne vois plus les pavés mouillés de la même manière après avoir lu Simenon. C'est pas vrai, Éric Libiot?
Mais oui, c'est vrai. C'est en fait ce qui est représenté, la façon dont on le représente. C'est systématiquement, et c'est là où se situe l'interstice entre l'émerveillement, l'étonnement, la curiosité, entre ce qui est fait et la façon dont un artiste le représente.
Guillemette Odissino?
Oui, je crois que ce qui est vraiment merveilleux, c'est quand on lit une phrase, quand on regarde une toile, quand on écoute un morceau de musique, et que l'artiste a réussi à dire, à peindre, à écrire exactement ce qu'on pense, alors que nous, on en est strictement incapable. Ça, c'est une source d'émerveillement, mais constante. La phrase d'un écrivain où on dit « Oh non, c'est pas possible, ça, il a dit exactement ce que je pense. » C'est une révélation à chaque fois.
Mais ça, je pense que c'est très exactement la fonction de l'art, j'en suis persuadée, c'est de dire ce que tout le monde avait sur le bout de la langue, mais sans arriver à le dire ou sans avoir la capacité de le dire. L'artiste est là pour ça, pour parler pour tous.
Éric Libiot.
Oui, moi je me souviens d'une anecdote. J'étais au Prado, je regardais des tableaux de Goya. Je suis tout d'un coup devant le tableau de Goya, le chien.
À Madrid. Hein.
À Madrid, pardon, oui. Et les larmes sont mises aux yeux. Mais c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et je sais, c'est pas arrivé depuis. Et je m'étonne encore de cette émotion que j'ai vécue sur ce tableau qui est, je sais pas, il a peut-être rien d'extraordinaire, ou en tout cas, ou tout ce que fait Goya est extraordinaire. Mais en tout cas, il y a eu un moment d'émotion extrêmement étonnant de ma part.
Bonjour Chantal.
Bonjour.
Vous appelez du 15e arrondissement à Paris.
Oui.
J'ai le droit de dire votre âge ou pas?
Oui.
Bon, alors vous avez 70 ans voilà. Et visiblement vous êtes émerveillée par une forme d'art très urbaine.
Voilà, alors il y a une dizaine d'années, à travers un stage d'initiation, j'ai découvert le street art que mes yeux n'avaient jamais avant vu dans la ville. J'habite Paris, donc on découvre des choses qui étaient sous nos yeux. Et depuis, je me suis pris de passion pour cet art. Et ça m'a amené à changer complètement mon regard sur ma façon d'être dans la rue. Et donc, je quête les œuvres des street artistes. Alors, il y a des quartiers privilégiés pour ça dans le nord de Paris, 18e, 19e, 20e, 13e, etc. Mais au-delà de ça, c'est ce que je voulais vous apporter ce matin, c'est que mon regard, en me baladant, en faisant mon marché, en faisant des courses, a changé ma façon d'être dans la ville, parce que quand je cherche des œuvres de street art, je lève les yeux, je les baisse, je me retourne, je regarde des cheminées, et du coup, je remarque des immeubles, je remarque des portes cochères, je remarque les reflets de la lumière dans une fenêtre, je remarque des vitrines, je remarque les enseignes de vitrines avec de la typographie particulière. Et pas plus tard qu'hier, pour vous donner un exemple, en faisant une course dans mon quartier qui n'est pas spécialement street art, et bien sur une palissade de travaux, il y avait un artiste, je dirais, qui est venu apposer un visage avec une technique particulière, et je me suis arrêtée, émerveillée, j'ai sorti mon portable pour prendre la photo. Et c'est une façon pour moi quotidiennement d'être dehors. Alors de regarder les fleurs aussi, si vous vous approchez d'un cœur de fleurs, c'est un vrai mandala. Mais le street art m'a modifié ma façon d'être dehors, de me balader. Et alors j'habite Paris, mais maintenant quand je pars en province, c'est la même chose. Et il y a de quoi s'émerveiller, mais quasiment à chaque pas ou pas loin.
Bah, vous savez quoi, Chantal, je trouve assez extraordinaire.
Mais oui, Canon. Parce qu'en fait, ce que madame était en train de dire, c'est-à-dire, c'est la grande leçon, je crois, qu'elle nous incite à tirer. Il faut savoir habiter poétiquement le monde. Et c'est très exactement ce que fait madame. Tout à coup, à la suite de cette vigilance, elle s'est mise à habiter poétiquement le monde. Je crois que ça, c'est ce que nous devrions tous apprendre à faire.
Guillemette Odissino.
Et du coup, cette dame nous prouve que les gens émerveillés sont émerveillants. C'est-à-dire que cette dame est merveilleuse. Elle m'émerveille quand elle parle. Donc, en fait, l'émerveillement est une douce maladie. J'admire les gens émerveillés.
Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir émerveillés. Bonjour, Catherine. Vous appelez de La Réunion. Bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Bonjour, oui.
Alors, vous vouliez nous parler de l'émerveillement, de la rencontre avec l'autre.
Oui. Moi, c'est ma passion. En fait, je ne sais pas si c'est le fait que je sois déjà née dans une société multiculturelle qui a voulu ça. J'en suis partie très jeune, à 17 ans, pour voyager, et en Allemagne, en France, un petit peu en Europe. Et c'est vrai que j'ai besoin de rencontrer des gens, et je suis émerveillée par quand je rencontre des gens et qui m'émerveillent. Je sais pas où expliquer, mais j'aime le voyage, je travaille dans le voyage et j'ai besoin de rencontrer des gens tous les jours, j'ai besoin de rencontrer des gens nouveaux, mais surtout de temps en temps, voilà, il y a une étincelle, quelque chose. Cette rencontre peut être furtive, brève, ou bien elle va durer, devenir une amitié, peu importe. Mais moi, je suis émerveillée par la rencontre avec d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, d'autres univers. Voilà, j'arrive pas à comprendre la peur de l'autre, parce que moi ça m'émerveille. Quand je rencontre quelqu'un qui est complètement différent et qui pense autrement et qui a vécu d'autres choses, je me sens vivante.
Merci beaucoup Catherine d'avoir témoigné depuis La Réunion. Belinda Cannon en a à peine quelques secondes pour évoquer un chapitre à mon sens important dans votre ouvrage qui s'intitule « Le modestie du sublime » que vous consacrez à Germaine Tillion, à la grande résistante Germaine Tillion.
Oui, parce que les conduites d'autrui peuvent être aussi émerveillantes, et je tenais à le dire parce qu'on a beaucoup parlé de la nature, on n'a pas beaucoup parlé là de la rencontre amoureuse par exemple, mais c'est
pour une autre émission.
Voilà, c'est un lieu, un moment d'émerveillement très fort, mais il y a aussi les conduites des êtres autour de nous qui peuvent être émerveillantes. Et Germaine Tillion, je trouve que c'est vraiment un modèle absolu, parce que c'est vraiment un modèle d'héroïsme, mais c'est un héroïsme que j'avais envie de dire modeste, puisque c'est un peu mon maître mot, vous l'avez compris, plutôt qu'humilité, d'ailleurs c'est modestie qui m'intéresse. Un héroïsme modeste dans la mesure où quand on voit ce qu'a fait Germaine Tillion, notamment lorsqu'elle était à Ravensbrück par exemple, où elle a mis en scène un opéra bouffe, etc., pour ses compagnes d'emprisonnement, enfin de déportation, on s'aperçoit que l'héroïsme c'est aussi à la portée de chacun, qu'il suffit de se conduire d'une façon simple, mais par exemple de pas lever les bras quand tout le monde le lève, etc. Voilà, il y a des formes d'émerveillement, on n'a pas le temps d'en parler là, mais qui sont vraiment liées aux conduites humaines, et il faut le dire.
Vous reviendrez, Belinda Cannon. Merci beaucoup, je recommande votre ouvrage, S'émerveiller, publié chez Stock. Éric Libieux, rédacteur en chef à l'Express, quel objet avez-vous choisi cette semaine ?
Oh bah, vous allez voir. Mais moi, ce qui m'émerveille, on l'a dit, c'est un paysage, c'est la montagne, mais c'est aussi une plage de sable fin, des rochers bretons, et l'océan qui se perd très loin. Alors oui, je sais Alice, ce paysage n'est pas un objet, et puisque la semaine dernière j'ai chroniqué le sandwich devant vos sourcils froncés mais bienveillants, je vous rassure, aujourd'hui je ne vais pas m'étendre sur le sable. Donc je marche sur la plage de sable fin et voilà qu'un enfant de 4-5 ans me dépasse poussant devant lui un ballon. Il rit, il trébuche, il tape dans le ballon, il le rate, recommence, le ballon va dans l'eau, l'enfant est surpris, inquiet, le ballon revient sur la plage par le mouvement des vagues, l'enfant repart en riant, poussant le ballon tel un Sisyphe heureux. Voilà ce qui m'émerveille aussi. Le ballon est le jouet et l'objet de tout âge, de tout pays, chez les Inuits ou les Japonais, de formes rondes, de presque toutes les tailles. Prenons donc trois sports de ballon, les plus populaires du moment, le football, le basket, le rugby, et regardons comment roule ce ballon. Au football, il faut atteindre non pas son but, mais le but de l'autre, et recommencer encore et toujours. Et 1, et 2, et 3, et 4-0, comme dirait le PSG face au Barça. Au football, le but n'est jamais une fin en soi. Voilà un sport où il faut accumuler les buts, mais toujours les mêmes. Et pendant ce temps-là, l'enfant heureux pousse le ballon tel un Sisyphe. Le basket, lui, est un sport dans lequel il faut tirer dans un panier percé. Il faut tirer sans fin, il faut tirer sans fond. Et pendant ce temps-là, l'enfant pousse le ballon tel un Sisyphe heureux. Quant au rugby, il faut passer le ballon en arrière pour avancer. Au rugby, le but, c'est l'essai, ce qui est assez modeste finalement. Si l'essai n'est pas transformé, on marque quand même des points. Essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est déjà réussir. Voilà une belle métaphore de la vie. Et pendant ce temps-là, l'enfant pousse le ballon tel un Sisyphe heureux. Ainsi, très tôt, l'enfant se frotte à la mythologie sans le savoir. Nous sommes tous des Sisyphes, Ali. Sisyphe, héros condamné à pousser son rocher en haut de la montagne avant que le rocher ne redescende et que Sisyphe ne recommence indéfiniment le rocher, le ballon, même combat. Car jouer au ballon est un acte qui rapproche d'Albert Camus, auteur du mythe de Sisyphe, qui philosophe sur l'absurdité de la vie. Jouer au ballon, c'est découvrir l'altérité, le sens du collectif et de la responsabilité individuelle. Jouer au ballon, c'est, on l'a vu, affirmer l'éternel recommencement des choses. Que Camus soit finalement un fan de foot n'est pas absurde pour le coup. Et pendant ce temps-là, l'enfant pousse le ballon tel un Sisyphe heureux. Il est un cliché journalistique fort répandu, celui de la grande incertitude du sport. Il faut plutôt y voir, en l'occurrence, à mon avis, la grande absurdité du jeu de ballon. Dans le mythe de Sisyphe, Camus explique que face à cette absurdité, la réponse n'est pas le suicide, mais la révolte. Se révolter pour vaincre l'absurdité de la vie. Il semble que le PSG ait une conception camusienne de sa technique de ballon. On verra bientôt si Lionel Messi, le capitaine du Barça, peut emmener son ballon et ses coéquipiers sur le chemin de la révolte. Rien n'est moins sûr. Remarquez, un type qui s'appelle Messi n'est pas très proche de la philosophie d'Albert Camus. Il serait plutôt du genre à tendre l'autre joue. Et pendant ce temps-là, l'enfant pousse le ballon tel un Sisyphe heureux. Et c'est un émerveillement qui n'a rien d'absurde.
Merci beaucoup, Belinda Cannon. Votre ouvrage « S'émerveiller » est publié chez Stock. J'aimerais également signaler la sortie « D'oser l'émerveillement » de Lélie Anvar. Vous pouvez retrouver toutes les informations et la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée à l'écoute de France Inter. Without the boundaries of love, my take is I wish there was a better way.
I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen, every letter you send.
Yo, I've been listening to dreamy days. I'm in disarray. I realize it's everybody else is still astray. I feel ashamed, I know there ain't no saving away. They went astray, I went Australia. So what I'm supposed to say to them, when all this love's out of range, everything around me changed, I'm supposed to stay the same. Turned down these free drinks I couldn't even name, and that, like all this money isn't fucking up my brain. I've been going insane. Shell full of family remains, broken hearted, seeking none of them again. I pull the glass, stick my head out in the rain, try and find another person I can blame. Sat up on this plane, and yo, I'm praying that we don't crash. Cause every night I shiver at the sight when we go back. Cause every night could be my last, and yeah, I know that. So I crack a smile for it goes black. Trust. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you sus. I wish you'd been there when my dad had died. I wish you'd been there when my mother cried. I wish you'd been there in the dragon night to see my side. Look me in my eyes when I was paralyzed, and tell me everything's alright and push it to the side. It's just a sacrifice. At times I told a bag of lies, but not a pack of lies. But yours told a couple ones, of course it was true. You only knew me from the dramatized. I feel an agonizing risk, cause in a thousand islands this is where I really wanna be. When we were cracking wise, cause it was black and white, literally black and white. White from my mother and my father was the blackest skies. I can see it's true. I see my mother up in you. Shit, I think my dad'd see it too. Yeah, I just wish he knew. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend. When wet in the pen, every letter you send. Imagine all the friends you see most. Each one you're pegging at ways, dependent on you putting pen to the page. And so you break it down, checking they're paid. Another day your heart breaking, you were sent to the stage. You feel that same rage, watch the crowd, watch the stage thinking shit. Rather in the crowd with your mates drinking. Misbehaviors, catch another dame winking. You feel ashamed, guzzle Jaegers, your brain sinking. You think it's...